VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État ont élu ce lundi le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Il a fallu 7 tours de scrutin avant que l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères obtienne le feu vert des leaders de l'organisation panafricaine et remplace à ce poste la sud-africaine Kosa Zana Dlamini Zuma, démissionnaire. L'Union africaine a également un nouveau président en exercice, le chef de l'État guinéen Alpha Condé, qui succède au Tchadien Idriss Déby. Plus de détails sur les autres points à l'ordre du jour du sommet avec Idriss Fall.
La réintégration du Maroc sera l'un des trois premiers points à l'ordre du jour. Les chefs d'État africains auront le dernier mot et vont décider pendant leur réunion à huis clos. Le Maroc avait annoncé sa volonté de réintégrer l'organisation panafricaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique. Rabat a fait sa demande sans poser de préalable. Selon un responsable marocain, 42 pays soutiennent le retour du Maroc alors qu'il suffirait d'une majorité simple de 28 États sur les 54 pays membres. Les chefs d'État devront aussi choisir 8 commissaires en charge des différents départements et celui qui prendra la tête du Conseil de paix et de sécurité fait l'objet d'une âpre bataille entre l'Algérie et le Nigeria. Aussi, les recommandations du comité d'experts réunis autour du président rwandais Paul Kagame sur la réforme de l'Union africaine et sur son financement seront sur la table, ainsi que les crises qui secouent le continent.
À noter que la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Kosa Zana Dlamini Zuma, s'est inquiétée ouvertement à la réunion du nouvel environnement international. Le 28e sommet de l'Union africaine étant le premier organisé depuis l'accession à la Maison-Blanche du président américain Donald Trump. Il est clair qu'au niveau mondial, nous entrons dans une période de turbulence, a déclaré Mme Zuma, en soulignant que les États-Unis ont décidé d'interdire les réfugiés originaires de plusieurs pays africains. Assurément, c'est là un des plus grands défis et un des plus grands tests pour notre unité et notre solidarité, a ajouté la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. Les décrets adoptés vendredi par l'administration Trump pour interdire temporairement aux ressortissants d'Iran, de Syrie, du Yémen, de Libye, d'Irak, de Somalie et du Soudan d'entrer aux États-Unis continuent par ailleurs de susciter des réactions dans le monde musulman et ailleurs. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui regroupe 57 États membres, a critiqué le décret anti-immigration du président Donald Trump, estimant qu'il renforçait l'extrémisme et le terrorisme. L'OCI invite la nouvelle administration américaine à reconsidérer sa décision. Selon le communiqué de l'organisation basée à Jeddah, la capitale économique du royaume saoudien. Maintenant, la réaction de Mohamed Nagui, directeur du Sudan Tribune, à Paris.
Ce qu'on regrette, c'est que c'est une mesure qui manque de sens et qui paraît un petit peu fantaisiste. Surtout le président Trump, il a mentionné les attentats du 11 septembre et du coup, il a omis les ressortissants des pays qui ont participé dans ces attentats horribles et il a mis des pays qui n'ont rien à voir avec tout cela. Je crois qu'il a pris surtout la liste des pays qui soutiennent les terroristes et il a pris cette mesure-là dans ce sens-là. Si on parle du Soudan, l'administration soudanaise ou le gouvernement soudanais, il a largement collaboré avec l'administration américaine. Même le State Department, enfin le ministère des Affaires étrangères américaine, il a déjà mentionné ça. Donc, on ne comprend pas, au fait, s'il s'agit d'un sens général ou s'il s'agit spécifiquement par rapport au Soudan. Et il n'y a pas de justification. Et c'est ça qui est navrant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a rien qui justifie cette mesure. Il n'a pas de sens, pourvu de toute signification, de tout impact, du coup.
Mohamed Nagui, directeur du Sudan Tribune, à Paris. Pour sa part, Donald Trump dément que son décret soit anti-musulman. Il affirme que les États-Unis recommenceront à émettre de nouveau des visas pour tous les pays concernés une fois mise en place des mesures de sécurité renforcées du territoire américain dans les 90 prochains jours.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Maintenant, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon avec Nicolas Pinault.
Bonjour à tous. Immense déception pour les supporters congolais ce matin. La République démocratique du Congo qui est tombée sur un Ghana plus réaliste hier à OIM en quart de finale. Victoire 2-1 pour les Black Stars. Tout s'est joué en deuxième mi-temps avec l'ouverture du score de Jordan Ayew pour les Ghanéens, avec une égalisation de Paul-José Mpoku pour les Léopards, puis un pénalty indiscutable est accordé aux Ghanéens qui prennent l'avantage grâce à André Ayew. Premier du groupe C, les Léopards pourront nourrir des regrets. On retrouve AOM Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Dominateur en première période, les Léopards n'ont pas pu concrétiser la kyrielle d'occasion qu'ils ont obtenue avant de se faire punir en seconde mi-temps sur des erreurs de Rémi Moulumba, puis Joss Lomalissa. Florent Ibengue, le sélectionneur congolais.
Il faut savoir assumer, on ne peut pas toujours gagner. Aujourd'hui, on a mis les ingrédients pour pouvoir gagner le match. On savait qu'il fallait jouer contre cette équipe du Ghana, il ne fallait pas attendre. Malheureusement, il fallait mettre encore un peu plus de rythme en première mi-temps, parce qu'il gelait bien. On s'est procuré quand même beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas su concrétiser. Là, devant la surface de vérité, on n'a pas été bon.
Les Black Stars ghanéens, eux, ont souffert en première mi-temps, concédant de nombreuses occasions, mais sans flancher avant le show des frères Ayew. Jordan Ayew, le cadet, auteur du premier but de sa sélection, salue le travail collectif de son équipe.
On a gagné, voilà, faut féliciter les gars, voilà, ils ont fait des bonnes choses, défensivement surtout. Voilà, moi j'étais devant, j'ai eu une occasion, j'ai essayé d'être le plus efficace possible et aujourd'hui ça m'a réussi. Alors voilà, je pense qu'ils ont fait une mi-temps et nous on a fait la deuxième mi-temps et voilà.
À l'expérience donc, le Ghana se qualifie pour sa 6e demi-finale consécutive à la CAN depuis 2008 et va croiser le Cameroun à Franceville. OIM, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À Port-Gentil, les Pharaons ont attendu les ultimes minutes pour battre le Maroc. Une victoire 1-0 qui propulse l'Égypte dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique 7 ans après sa dernière demi-finale. Amine Birouk a suivi ce match pour VOA Afrique depuis Port-Gentil.
Le métier des pharaons a eu raison de la fougue des lions de l'Atlas ce dimanche lors d'un duel 100% nord-africain. Les Égyptiens ont su faire la différence dans le Money Time suite à un cafouillage habilement exploité par Mohamed Souleymen à la 87e minute. Un but qui venait ruiner les espoirs de qualification des Marocains pour les demi-finales. Ces derniers avaient laissé passer leur chance, notamment en début de seconde mi-temps. Mais cette élimination prématurée du Maroc ne laisse aucun regret à un Hervé Renard fier de la combativité de ses troupes.
Je suis fier de tous les joueurs. Sincèrement, ils ont été exceptionnels. On a vu un joueur exceptionnel dans le milieu de terrain, Boussoufa, qui a été au-dessus de tout le monde dans tous les matchs. Nos défenseurs ont été d'une rigueur et d'une volonté aussi exceptionnelles. On doit juste être fier de ce qu'on a fait. Parce qu'on part de très loin. L'Égypte est bien devant, cette nation est bien devant la nôtre. Parfois, il faut être réaliste, mais sur un match, on pouvait le faire. Mais on ne l'a pas fait. Il manquait une toute petite chose.
Le rêve continental se poursuit pour l'Égypte qui devra mercredi prochain en demi-finale à Libreville confirmer son retour au sommet devant le Burkina Faso. Mais ceci est une autre histoire. Depuis Port-Gentil au Gabon, Amine Birouk pour VO Afrique.
Les pharaons d'Égypte affronteront au prochain tour le Burkina Faso qui s'est débarrassé de la Tunisie en quart de finale à Libreville. Les étalons espèrent rééditer l'exploit de 2013 où ils avaient atteint la finale du tournoi. Écoutons Paolo Duarte, l'entraîneur du Burkina qui prépare sereinement ce rendez-vous.
Non, féliciter le joueur, sincèrement. Féliciter un groupe qui a beaucoup souffert. Féliciter un groupe qui sent chaque match qu'on passe physiquement son meilleur. Parce qu'on a eu beaucoup de sourds avant de la CAN. Et voilà, quand on a cette détermination, cette posture sur le terrain, et que tout le monde veut gagner, tout le monde mange la balle, c'est comme mentalement le premier but nous a donné une drogue qui a fait résister toute l'équipe dans le combat physique et dans la transition. Je me sens l'entraîneur clairement.
Paolo Duarte, l'entraîneur du Burkina Faso, au micro de Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon. Dans l'autre demi-finale, le Ghana jouera contre le Cameroun. Un beau duel d'anciens vainqueurs de la CAN et un retour au premier plan pour les Lions indomptables qui ont battu le Sénégal en quart de finale au tir au but. C'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.